Mineur. Je vous rappelle d'abord le...
Le droit à la trompette.
Je vous rappelle d'abord le thème général. Et il s'agit d'une analyse des finalités du couple selon la tradition juive. Et hier, nous avons envisagé ce problème dans la définition suivante, le couple étant le couple des époux-épouses. Je reprends. Le couple époux-épouse, mais finalement relié déjà à la définition du couple comme père et mère. Puisque nous avons dégagé deux finalités du couple à ce niveau. D'une part, l'engendrement, ce qui se relie au commandement de Pérou Urbou, et d'autre part, une finalité interne à la relation entre les personnes qui forment le couple, et qui est une finalité de complémentarité, ce terme ayant, dans le sens hébreu, une signification un peu différente de ce qu'il a dans le sens français, puisque nous avons découvert une réciprocité de cette complémentarité, et qu'elle vient répondre à un problème métaphysique profond, celui du caractère inachevé de l'identité humaine, quelle soit celle de l'homme ou de la femme. Et aujourd'hui, nous allons aborder une seconde forme du couple, celui qui est formé par les frères. Et nous découvrirons assez rapidement que, selon l'enseignement du récit biblique, c'est ce couple-là, le couple formé par les frères, qui est le couple fondamental. Ou en quelque sorte, il a une finalité plus essentielle au projet du Créateur que le couple défini sous sa forme classique, le couple homme-femme, mari-femme, puis père-mère, et qui lui va nous apparaître comme essentiellement provisoire. Ou en d'autres termes, ce qui se passe dans la relation du couple frère-frère a une finalité beaucoup plus de portée messianique historique que ce qui se passe dans le couple homme-femme, qui n'en est que le véhicule, que le support, et qui, lui, a une finalité dans le sens de la destinée individuelle de chacun. Et bien entendu, et nous allons là à la découverte d'une catégorie biblique, un peu dépaysante peut-être pour nos habitudes culturelles, et donc je commencerai par une analyse des données du sujet, à proprement parler, de telle sorte de découvrir ensemble de quoi il est parlé. Et dans cette deuxième définition du couple, ach-ach, frère-frère. Et ensuite, nous éclairons cela, comme d'habitude, par une relecture d'un certain nombre d'épisodes du récit biblique, où nous suivrons une certaine progression. Et puis, vous aurez la parole pour déjà organiser un certain nombre de questions, tant sur les thèmes qui sont apparus hier soir, que sur ceux qui apparaîtront, je l'espère, ce soir aussi. Je voudrais vous demander, pour ceux qui, ont l'habitude ou la tendance, je ne sais pas comment dire, de ne pas poser leurs questions en public et de les poser ensuite à la fin de l'étude, de le faire quand même en public, parce qu'en général ce sont des questions pertinentes et il est vraiment dommage que nous n'en profitions pas tous ensemble. D'autre part, la direction du centre m'a demandé de vous demander d'être bref, parce qu'il ne faut pas finir trop tard. Par conséquent, l'exposé introductif sera le plus bref possible, c'est jamais toujours possible, et je vous demanderai de poser vraiment des questions à la Inyan, directement sur le sujet, parce que finalement il s'agit d'un séminaire d'études et pas d'autre chose. Donc c'est à vous d'étudier autant que moi de parler. Demain, donc, au séminaire israélite, à la rue Vauclin, nous aurons un troisième genre d'étude, une étude de texte du Talmud qui se relie à ces deux sujets que nous aurons analysés hier et ce soir. Et nous aurons une récapitulation de ces analyses samedi soir à 9h ici même. Le vendredi soir, il y aura l'étude de la Sivra. Bien, écoutez, la première remarque de laquelle nous allons partir, partira quand même du texte biblique lui-même, c'est que tout se passe comme si le récit de la Torah est beaucoup plus explicite lorsqu'il parle de la relation d'autrui à autrui lorsque cette relation concerne les deux premiers frères, Caïn et Abel, les deux premiers enfants de l'homme, que lorsque cette relation concerne ce que nous, dans notre culture occidentale, nous nommons le couple dans la notion de relation entre homme et femme. Et il y a là, dès l'origine, une direction d'enseignement dans le récit de la Révélation qui va se déployer par la suite dans l'enseignement des prophètes. Voici comment nous pourrions formuler de façon générale le thème que je voudrais analyser. L'histoire, donc l'histoire de ce monde-ci, a, du point de vue de la cohérence biblique, une finalité. Quelle est donc cette finalité? Si nous rattachons la vision idéale que nous propose l'enseignement de la prophétie à la manière dont la Torah déjà elle-même raconte le récit de l'histoire jusqu'au moment où ce récit quitte le texte pour devenir notre propre histoire, et ceci, je vous ici une petite parenthèse de méthode, ceci est systématiquement, quel que soit le temps où on lit le texte, le temps de celui qui lit le texte. Je voudrais essayer d'éclairer cela par une image. Je veux dire en tout cas que à quelque temps de l'histoire où telle ou telle génération d'Israël a lu le texte de la Bible, c'est en ce temps-là que l'histoire quitte le récit et devient l'histoire du lecteur. C'est-à-dire le présent de la Bible est le présent du lecteur au temps où lui se trouve. Ceci est indiqué par un verset du livre de l'Exode qui introduit la révélation des 10 commandements. Lorsque le verset dit « Au troisième jour du troisième mois, du temps de la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour-ci, il faut traduire en français, non pas en ce jour-là, puisqu'il y aurait Bayom Ahou pour dire en ce jour-là, si le récit nous renvoyait au jour de l'événement dont on parle, mais Bayom Hazé, disent les commentateurs, vous lirez Rashi à ce sujet, le jour où tu lis ce texte, la Torah est révélée. Et l'image que je voulais vous transmettre pour éclairer ce problème, c'est un souvenir d'enfance. Un jour où je me trouvais à mon balcon la nuit, et il y avait une file de voitures qui venait de la gauche et partait vers la droite. Et ces mêmes voitures, lorsqu'elles venaient de la gauche, avaient une lumière blanche, celle des phares de l'avant, et lorsqu'elles partaient à droite, avaient une lumière rouge, celle des phares de l'arrière. Et par conséquent, cela signifiait qu'il y avait un temps en trois moments, celui qui venait vers moi, et puis celui qui repartait de moi, un passé, un avenir, si vous voulez, mais le présent, c'était là où je me trouvais, moi, l'observateur. Eh bien, de la même manière, lorsque la Bible emploie un passé, dans son récit, ça veut dire le passé jusqu'au temps de moi qui lis, et lorsqu'elle emploie un futur, c'est le futur à partir du temps de moi qui lis. Et le présent étant le moment où se produit la communication entre le récit révélé et moi qui en prends connaissance. Eh bien, ceci pour dire qu'à n'importe quelle génération de l'histoire d'Israël, cette histoire qui est racontée, qui commence à Adam, puis à travers Abraham, Isaac, Jacob et l'histoire d'Israël, devient la mienne, devient la nôtre, au moment où nous vivons, nous, dans le présent de Olam Hazeh, de ce monde. Eh bien, si cette histoire a une finalité, selon la cohérence de l'enseignement biblique, elle doit déboucher à la description de l'identité humaine enfin achevée, enfin réussie, enfin aboutie, telle que l'ont vu les prophètes. Et ce que les prophètes d'Israël ont essentiellement vu pour le temps de l'achèvement de l'histoire, que la tradition nomme le temps messianique, c'est la fin des contradictions humaines, comme on dit dans le langage contemporain, la solution des antinomies, des impossibilités, des difficultés qui font que le monde où nous vivons est un monde de conflit. C'est-à-dire, en d'autres termes, un monde, et nous allons donc employer les termes classiques, mais qui, j'espère, vont prendre une densité plus originelle, un monde où les hommes seraient frères. Et cela signifie donc que les prophètes d'Israël ont conçu l'histoire jusqu'au temps de cet aboutissement messianique, comme étant l'histoire d'une identité humaine où, semble-t-il, par nature, les hommes ne sont pas frères. Et que, s'il y a une finalité à l'histoire de ce monde-ci, c'est d'engendrer une manière d'être homme qui pourrait se définir ainsi, l'être frère, un être capable d'être frère. Or, c'est effectivement ce que va nous montrer, ce que nous montre le récit de la Torah lui-même lorsqu'il raconte l'histoire des générations depuis la première jusqu'au temps où le récit quitte le texte pour devenir notre histoire, à chaque moment que ce soit, encore une fois, de l'histoire de ce monde. Donc nous avons là un postulat de départ. Adam, cela veut dire l'identité humaine, incapable d'être frère. Et il y aura dans l'histoire d'Adam tout un effort d'engendrement d'un Ben-Adam, d'un fils de Adam, le fils de l'homme, comme disent les prophètes, qui lui est défini comme étant capable d'être frère. Pourquoi cette définition est importante? D'abord parce que cela nous confirme, et nous y reviendrons peut-être si la journée n'est pas suffisamment éclairée, ça nous confirme que la relation homme-femme, dont père-mère, que la relation de la dualité, disons, comment dire, du couple, première manière, est provisoire. Elle s'attache à l'identité de l'histoire de ce monde-ci. Elle est, si vous voulez, la matrice où s'élabore la relation de fraternité. Mais le monde, semble-t-il, n'a pas été créé pour Adam et Ève, mais pour celui de leur fils qui pourra être le fils de l'homme, correspondant au projet du Créateur, c'est-à-dire un homme capable d'être frère. Un homme dont on pourrait dire qu'il peut être Ah, et pas seulement Adam. C'est ce que nous montre l'histoire concrète que nous avons vécue depuis toujours et qui est traversée par cette espérance messianique des prophètes d'Israël qui finalement a pour slogan, pour consigne, comme vous le savez, le mot de Shalom. C'est le fait suivant. Tous les problèmes, tous, sans exception, qui handicapent la société humaine et son histoire sont seconds par rapport à un problème formellement unique et toujours le même, celui de l'agressivité entre les sujets, celui de la rivalité entre les hommes. Que ce soit les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, tout cela aurait une solution si, comme ont dit les prophètes d'Israël, les hommes étaient capables d'être frères. Je prendrai simplement, rapidement, un exemple au niveau des problèmes les plus graves, parce que ce sont les plus immédiats, les plus urgents, des problèmes économiques. Dans notre temps, il est évident que la technique a déjà les moyens de faire que personne n'ait faim dans le monde. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Eh bien, si nous, comment dire, relions l'état de fait et l'explication qu'en donne la Bible, eh bien, la chose devient claire. Pourquoi la répartition des biens de consommation n'aboutit pas à une justice réelle ou à une égalité réelle? Pas parce qu'il n'y a pas les moyens techniques de la production ou de la répartition, mais parce que la bonne volonté manque, c'est-à-dire la relation de fraternité. Or, ceci est vrai non seulement au niveau des besoins économiques, mais au niveau de toutes les relations de jouissance qui font, l'intérêt à la vie, mais le mot serait faible, qui font la vie, que tout peut être vraiment partagé, que, si j'ose dire, pour employer une expression des prophètes et du Midrash, que le pain peut être rompu avec tous, mais à condition qu'il s'agisse d'une relation de frère à frère. La Bible a donc ici une vision, un diagnostic de lucidité très précise. Notre histoire est une histoire d'échec perpétuel parce que l'équation fondamentale manque, c'est-à-dire que la relation d'autrui à autrui n'est encore pas celle de frère à frère. Voici, si vous voulez, la première analyse, et qui nous fait comprendre effectivement pourquoi le Midrash, et cela a été mis en forme beaucoup plus énergiquement par l'enseignement des kabbalistes, nous enseigne, que nous fait comprendre à travers le récit biblique, que notre monde est un monde à la fois nécessaire et provisoire, mais que c'est pas, comment dire, oui, que notre monde est, bien que nécessaire, provisoire. Que ce n'est pas pour ce monde-ci qu'un monde a été créé, mais que c'est l'effort d'engendrement d'une identité de la créature qui puisse avoir résolu cette impossibilité de départ qui nous est décrite dès le début de l'histoire des hommes par la Torah. Dès qu'il y a deux sujets, il y a rivalité, agressivité, guerre, meurtre. Et il est clair que, pour la tradition juive, que l'équation principale, qui est le souci du Créateur, si j'ose dire, eh bien, ce n'est pas tellement l'éventualité de la faute qui va de la créature au Créateur, la faute proprement religieuse, théologique, elle est importante, elle peut avoir des conséquences très handicapantes sur l'histoire réelle, mais que l'équation fondamentale est celle de la relation entre autrui et autrui, de créature à créature, c'est-à-dire de frère à frère. On voudrait éclairer ce point de la manière suivante, en reprenant une analyse du souci de la messianité tel qu'il existe dans la tradition juive. Tout se passe comme si, et comme nous allons le voir dans l'analyse immédiate, tout se passe comme si la raison pour laquelle la tradition juive nomme l'identité messianique attendue, le fils de l'homme attendu, c'est-à-dire l'homme enfin engendré, enfin ayant résolu ses contradictions de relations d'autrui à autrui, le nomme le fils de David, c'est qu'elle a jugé que jusqu'à David, il y avait une première étape déjà réussie, déjà achevée, déjà intégrée, et de façon irréversible, en tout cas à l'échelle de l'universel humain. C'est le fait de la rédemption du tikkun de la faute du premier homme. C'est-à-dire cette faute qui nous est définie par la Bible comme une rébellion contre le Créateur. Si il y a encore à partir du roi David une espérance messianique, c'est donc, comme nous allons le voir, qu'elle porte sur un autre objet, sur la rédemption d'un autre type de faute. Je m'explique. La faute du premier homme, selon la tradition du Midrash, a trouvé sa rédemption dans l'identité du roi David lui-même, en ce qu'il a été le premier roi d'une société humaine qui a fait reconnaître comme véritable souverain le Créateur. Et dans ce sens-là, la faute du premier homme qui avait consisté à se révéler contre le Créateur a trouvé sa rédemption dans le principe. Et si nous nommons le Messie fils de David, c'est-à-dire que cela concerne une étape qui commence à partir de David et que c'est une autre étape, et que la tension messianique de l'attente du fils de David concerne la faute, si j'ose dire, du deuxième homme, c'est-à-dire la faute de Caïn, celle qui a consisté à supprimer autrui, de la révolte contre la présence d'autrui, l'autre créature. Et en ce sens, et je pense qu'il est important de le mettre en évidence, cela signifie que dans la séparation qu'il y a eu entre la tradition juive et la théologie chrétienne, tout se passe comme si il y a eu un déplacement d'accent porté sur cette tension messianique. Il me semble, et nous en parlerons tout à l'heure si cela est nécessaire, il me semble qu'effectivement, la tension messianique chrétienne porte encore sur la première étape, pré-davidique, sur la rédemption de la faute du premier homme, qui se nomme dans sa théologie le péché originel. Alors que dans le principe, pour la tradition juive, ceci est irréversiblement acquis, dans le principe, je dis bien, puisqu'à l'échelle individuelle, tout peut se rejouer, par la rédemption assurée par la royauté de David. Et que le souci principal de la messianité juive porte sur l'attente du fils de David, et cela signifie l'homme capable d'être frère, l'homme étant capable de porter la rédemption de la faute de Caïn, pas de celle de Adam. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et effectivement, nous voyons donc que par là, la Torah assigne une finalité bien précise à notre histoire, à l'histoire de ce monde-ci. C'est un effort d'engendrement d'un type d'homme, comme je disais tout à l'heure, capable d'être frère. Non pas le postulat, mais la description, le récit historique des engendrements que nous donne non seulement la Genèse, mais toute la Bible, jusqu'aux chroniques, c'est cette cohérence. Que cette identité a été forgée, a été préparée et finalement a émergé dans la société d'Israël. Et que la société d'Israël est vue par la révélation biblique comme une sorte de matrice apte à pouvoir précisément engendrer ce fils de l'homme défini comme frère. C'est cela que nous allons lire dans le récit biblique. J'aborde donc maintenant la deuxième partie de l'analyse, c'est-à-dire que nous allons lire, comme nous l'avons déjà fait hier, un peu en survol par manque de temps et d'érudition préalable, et ce que la Bible nous dit de ce qui s'est passé au niveau du premier couple humain historique, du contenu de l'histoire, ainsi défini, c'est-à-dire Caïn et Abel, et nous nous apercevrons qu'après ce premier échec, le terme de frère disparaît du texte biblique. Le mot de « ach », qui signifie « frère », disparaît dès que Abel est tué et supprimé par Caïn. Que ce terme de « frère » ne va réapparaître qu'au moment d'Abraham, avec une première tentative d'installer la relation de fraternité entre Abraham et Lot. Et puis ce terme de « frère » va apparaître considérablement dans l'histoire postérieure des patriarches, jusqu'à trouver sa résolution, son épanouissement, si j'ose dire, dans l'histoire de Joseph et ses frères. Et c'est de nouveau par ce terme de frère, de « ach », que l'histoire de la fin de l'exil, de la sortie d'Égypte, sous la direction de Moïse, va commencer, lorsque Moïse va choisir ses frères. Voici, si vous voulez, le plan de la lecture. Alors, avant d'aborder cette analyse proprement exégétique, je voudrais déjà vous donner la parole sur la première introduction, celle qui avait pour objet d'éclairer les concepts de base, de telle sorte que nous soyons assurés de savoir où nous allons. Et je sais très bien que c'est la première question qui est toujours difficile, alors posez-moi d'abord la seconde. Oui, mais très rapidement, nous avons 5-6 minutes pour ça.
Peut-être technique, c'est une question qui se rapporte à ce qu'on a dit aussi bien hier que maintenant.
Oui.
Dans la mesure où la l'humanité, la meilleure du coup, c'est de pouvoir dire à sa femme sœur ou à son mari frère, il y a une question qui me vient à l'idée quant au problème de Halakha. Quand on pense, par exemple, que les relations frères et sœurs sont interdites. D'autre part, lorsque je dis à une...
Vous voulez dire les relations sexuelles, en fait.
Les relations sexuelles.
Oui.
D'autre part, lorsque...
Attendez, ça fait déjà beaucoup. Bien, je crois que la question est importante, je vais la formuler très, très rapidement, la reformuler au micro, disons. Et... Alors, nous sommes renvoyés à un schéma de l'analyse d'hier, c'est que les textes que nous avons cités nous ont montré l'identité humaine comme étant créée intentionnellement diminuée. Et c'est dans la réalité du couple, et dans un être de relation entre les deux personnes, les deux sujets, que l'identité d'Adam apparaît dans sa plénitude. Il y a donc une raison pour laquelle l'identité individuelle est diminuée et une raison pour laquelle elle ne peut se trouver réintégrée qu'au niveau de la relation du couple. Ça avait été formulé, d'après les termes de l'enseignement de la Torah, de la manière suivante. Il ne suffit pas que le mari se relie à sa femme dans le sens de « ish »,« isha », il faut qu'il se relie aussi dans le sens de « ach »,« achot », »,« frère », sœur. Ce n'est que dans la mesure où cette identité de réciprocité, de fraternité est déjà récupérée au niveau de la conjugalité, pour parler français, eh bien que effectivement la relation du couple a réussi. Je ne me souviens pas d'avoir cité suffisamment hier les textes, sinon le thème en général, sur lesquels je me suis basé. Je le ferai très rapidement pour pouvoir répondre à la question qui vient de m'être posée, s'il en est ainsi. Si le mari doit avoir dans sa femme une sœur et la sœur dans son mari un frère, alors on se heurte à une question de halakha, puisque la relation d'intimité est interdite entre frère et sœur. Il y aurait donc à la limite une sorte d'inceste spirituel, à tout le moins. Alors, voici comment la question qui est réelle pourrait être, sinon résolue, du moins comprise. Et je voudrais partir d'un enseignement du Khatam Sofer à ce sujet, et qui part de la question suivante, qui est, apparemment n'a aucun rapport, qui est ceci: la première révélation qui a eu lieu à Israël comme peuple a eu lieu quand même sur la terre d'Égypte. Et le Khatam Sofer pose la question suivante: comment se fait-il que Dieu a demandé à Israël d'offrir le sacrifice de Pessah, le sacrifice pascal, sur la terre d'Égypte. Alors que la grande règle du culte des sacrifices sera qu'il sera interdit d'offrir le sacrifice en dehors des lieux... on ne peut plus parler, parce que j'allais dire les lieux saints. Mais en hébreu, ça a un tout autre sens. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la question. En dehors, disons, du temple, du Beth Amikdash. En dehors des lieux de Kedusha. Et comment se fait-il que dans vraiment l'en dehors de la Kedusha, l'Égypte, du temps biblique, un sacrifice soit possible? Alors, pour donner sa réponse, le Khatam Sofer pose notre problème. Il nous dit qu'il y a, en toute chose, en toute valeur, il y a finalement dehors et dedans, en toute présence, il y a Nistar Veniglé, mais surtout Pnim et Chutz, dedans et dehors. Et que dans ce que la Torah nomme Ahava, l'amour, il y a aussi un dedans et un dehors, par rapport à l'identité humaine. Et il cite un verset du Cantique des Cantiques, un verset qui dit ceci, « Ni itencha keachli, emsaacha bachut, eshakcha, gam lo yavuzli. » Ça veut dire, c'est la fiancée qui dit au fiancé, donc c'est la relation conjugale, mari-femme qui est là, qui fera de toi un frère, comme un frère, keach, de telle sorte que je puisse t'embrasser, dehors, bachut, dehors, c'est-à-dire dans la rue, chut, dehors, et que ce ne soit pas interdit par la halakha. Alors, à ce propos, le Khatam Sofer a expliqué ceci, qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour du mari pour sa femme, qui est permis dedans et interdit dehors, on ne fait pas ça en public, et il y a l'amour du frère pour sa sœur, qui est permis dehors et interdit dedans. Et ce qu'il explique, c'est ceci, c'est que tant que ces deux amours, je sais pas, il y a une chanson comme ça, le de l'amour. Tant que c'est... Ça c'est... on pourrait dire, c'est Eretz Israël et Choutla. Mais tant que ces deux sortes d'amour ne sont pas réalisées, la relation d'autrui à autrui, pour l'homme et la femme, n'est pas complète, n'est pas réussie. D'où ce qui nous fait comprendre l'effort des patriarches pour arriver à faire comprendre que leur femme est leur sœur et réciproquement. Tous ces récits que vous lirez donc, et où on voit cette espèce d'obsession des patriarches, ça se passe deux fois chez Abraham et une fois chez Isaac, de faire dire de leur femme qu'elle est leur sœur et de le faire comprendre. Bon, ils vivaient dans un temps où personne n'a compris. On a raisonné comme ça. As-tu dit que c'est ta sœur? Ah, donc c'est peut-être qu'elle n'est pas ta femme, alors on peut te la prendre. Okay. C'est comme ça. Le premier voyage qu'Abraham a fait pour aller route dehors dans la civilisation du temps, porter ce témoignage que la femme c'est la sœur, bien, il s'est heurté à la civilisation égyptienne du temps, où, comme vous le savez d'ailleurs, les dynasties des pharaons prenaient leur vraie sœur comme femme. Vous voyez que le monde à l'envers. Hein? Et c'est-à-dire, ça fait le retour à la copulation de la bestialité pour l'espèce. Hein? Et. Alors on lui a dit, ah bon, c'est ta sœur, donc c'est pas ta femme, et comme elle était belle, on va la prendre. J'ai expliqué un jour, enfin dit un jour, qu'au fond ça a été la relation, nous avons vu hier que Zot, c'est la femme et c'est la Torah. Vous vous rappelez de ça? Au fond, c'est l'histoire de la relation entre Israël et sa Bible. Voilà. Alors voilà que Israël et sa Bible voyagent, et puis lorsque Israël voyage avec sa Bible, il dit, vous savez, c'est ma sœur. Alors on lui dit, ah, c'est ta sœur, eh bien, on va te la prendre, puisque c'est pas ta femme, et danger de mort. Voilà, parce qu'il faut te supprimer pour faire le mariage, et hériter. Vous comprenez ce que c'est un peu la même chose. Eh bien, en tout cas, voilà, pour votre réponse. C'est que, effectivement, il faut arriver à réussir cette impossibilité naturelle d'avoir entre mari et femme aussi la, et là je vais employer des termes propres à la psychologie, pas seulement la relation érotique, mais aussi la relation de tendresse. Alors tous les psychologues vous diront que c'est impossible et que c'est une utopie, c'est encore la folie des juifs, enfin la folie de la Bible, et que c'est impossible, et que les névroses viennent de là, qu'on n'arrive pas à unifier, à identifier érotisme et tendresse, et que, etc., etc. Bon, c'est cela que les patriarches ont inventé, c'est-à-dire la solution des névroses de ce type. Voilà. Oui, oui, vous avez la parole. Vous avez une deuxième question.
Si vous permettez, justement, je voudrais continuer sur le plan psychologique, si vous voulez, sur le plan des nations. On considère que, et vous-même vous l'avez dit, qu'un mariage est réussi si on a coupé les ponts complètement avec ses parents. Et
ah, sa soeur. Jamais de la vie, j'ai jamais dit.
Donc, je veux dire, peut-être que je m'exprime mal.
Ah oui, ça oui. Oui, oui, oui. S'il vous plaît.
De la relation avec la mère. Il ne faut pas voir en sa femme sa mère, sinon ce n'est pas un mariage encore dans sa finalité. Je suppose que c'est aussi la même chose pour sa soeur.
Bon, alors c'est que je me suis mal fait comprendre. Écoutez, vous me donnez des sueurs froides. vous savez, pour beaucoup de raisons, il m'est très difficile d'écrire. Alors maintenant, je vais me rendre compte que c'est aussi très difficile de parler. je voudrais donc, non simplement, ça va prendre un peu plus de temps, reprendre l'analyse d'hier sur laquelle vous vous basez pour votre question, et finalement essayer d'éclairer ce dont il s'agit. Nous avons vu qu'il y avait un effort dans l'histoire des patriarches à trois niveaux, Abraham, Isaac, Jacob, pour arriver à ce que la Bible dit de la relation entre le monsieur et la madame, enfin le mari et la femme, qu'il l'a aimé, ou qu'ils se sont aimés. L'étape charnière était entre Isaac et Rebecca. La Torah nous dit que Isaac a aimé Rebecca, et qu'il l'a fait venir dans la tente de sa mère, pas à tente avec deux T, dans la maison de sa mère, non, enfin dans le Ohel, et qu'il s'est consolé de sa mère. Le Midrash explique que c'est une indication que se mêlait dans l'amour que Isaac avait pour Rebecca, aussi l'amour qu'Isaac avait pour sa mère, Sarah. Que c'est la raison pour laquelle, moi j'ajoute moi, si vous voulez, pour ne pas confondre les sources, que c'est la raison pour laquelle déjà Jacob a pu naître, mais Ésaü aussi. Ésaü est né de l'aspect non réussi de cet amour, Jacob est né de l'aspect réussi. Mais entre la mort, dans l'amour entre Jacob et Rachel, qui était un amour pur de Jacob à Rachel, alors Joseph est né. Et Joseph est, comme nous l'avons déjà vu hier soir en conclusion, celui qui sera capable d'être frère. Le thème qu'il y a là est que, d'abord une question de méthode, c'est une typologie que la Torah nous enseigne ici. C'est-à-dire que ce sont des thèmes d'identité. Faites l'effort de ne pas identifier avec l'histoire individuelle de tout un chacun, fût-ce soi-même. Parce que ça, il y a des spécialistes qui savent le faire. Vous comprenez ce que je vous dis ? Vous risquez des malentendus à tout le monde. Et simplement, je veux essayer de vous décrire les thèmes d'identité qui se posent par rapport à ces catégories. Bien. Alors, première chose, donc, c'est qu'il y a une qualité de l'amour du fils pour la mère qui doit rester intacte, mais ne doit pas se mélanger ou se projeter sur l'amour du mari pour sa femme, le fils devenant mari. Et deuxième indication, la Torah dit « Beferush » explicitement « Alken ya'azov ish et aviv et imo vedabak beishto veyu basar echa » Et quelle que soit toutes les lectures de ce verset, la première en est, c'est pourquoi, et ça veut dire Alken, c'est pourquoi, c'est en vue de ce que. Ce c'est pourquoi est une finalité. Pour que cela réussisse, il faut donc que l'homme rompe la relation sexuelle, éventuelle, possible, au niveau de la sexualité corporelle, avec le père et la mère, et s'attache à sa femme. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il doit couper les ponts avec ses parents, comme vous avez dit. Parce qu'il est écrit dans les 10 commandements, respecte ton père et ta mère, c'est autre chose. Vous voyez ? Azov, ça veut pas dire. Ça veut dire, je veux dire, rompre. Bon, alors vous allez me dire, Oui, mais ça, c'était au temps de la préhistoire qu'il y avait ce risque-là dans les sociétés primitives. Pas du tout. Les psychologues savent que ça s'est intériorisé, mais que ça continue à fonctionner, ces risques-là. Vous comprenez? Bon. Alors, je crois que c'est un peu plus clair, maintenant.
Oui.
À la limite. Monsieur Arrêtlander.
La question que vous posez a directement la qualité de son rapport avec la fraternité. Est-ce que je me demande si la difficulté que l'on aurait à arriver à un monde de fraternité, c'est-à-dire le fait que nous soyons dans un monde de contradiction et d'antinomie, ne résulte pas nécessairement d'une conception antinomique de Dieu. La façon dont on conçoit la relation. Donc il y aurait une antinomie fondamentale au départ qui empêcherait définitivement, tant qu'on ne la supprime pas, ce monde de fraternité, tant que l'on considère une antinomie entre l'homme et Dieu.
Allez, voulez-vous répéter votre question que je me la déguste.
Est-ce que le monde d'antinomie dont vous parlez, où nous n'arrivons pas à la fraternité, ne vient pas et ne se maintient pas du fait que l'on ne supprime pas l'antinomie fondamentale qui paraît être une des bases du judaïsme, qui est celle entre Dieu et l'homme? C'est-à-dire, tant que l'on n'entend pas que Dieu est une parole et une parole fraternelle, au départ, on est hors d'un monde de fraternité.
Très bien. Eh bien, j'espérais votre deuxième définition. Parce que la première était, si j'ose dire, très chrétienne. Mais je vais certainement utiliser votre question dans l'analyse, dans les analyses suivantes. Et nous verrons effectivement que le véhicule essentiel, privilégié de cette relation de fraternité, c'est effectivement la parole. Et nous allons le voir sur un texte qui met en jeu Joseph et Seth.
Ce que vous avez dit de l'étape qui aurait été atteinte dans le principe à partir du roi David, au moment où il y a eu le roi David.
Oui, je répéterai la question.
Vous avez dit dans le principe, ça veut dire quoi cette étape a été atteinte, qui n'a-t-elle pas été atteinte?
Ah oui, c'est une question de vocabulaire. Voici la question qui m'a été posée. J'ai dit tout à l'heure que la rédemption de la faute du premier homme, en la schématisant, disons, le péché originel, dans le sens de révolte contre Dieu. Puisque ce péché originel, finalement, dans la théologie, a d'autres dimensions. Mais, disons, c'est le point central. Et j'avais dit que cette rédemption avait été acquise dans le principe grâce au roi David. Grâce à ce qu'il représente comme émergence d'identité dans l'effort d'engendrement de l'identité humaine. C'est-à-dire un homme qui, pour la première fois, en tant que roi d'une société, fait reconnaître comme véritable roi le Créateur, et non pas lui, le roi terrestre. D'où viendra l'expression traditionnelle qui désigne Dieu dans cette catégorie de la souveraineté malchut, royale, Melech Malche Hamlache. Et j'ai dit dans le principe, et ça veut dire que, bien entendu, à l'échelle individuelle, n'importe quel individu peut être de nouveau tenté de la faute du premier homme. Mais à l'échelle de la rédemption pour l'universel humain, c'est déjà, si j'ose dire, acquis. Et de cela, nous ne sommes plus préoccupés en tant que tradition messianique juive. Ce dont nous sommes préoccupés, et c'est de cela que parlent les prophètes, et que de cela, c'est de la relation de fraternité, c'est-à-dire de la rédemption de la faute du deuxième homme, de la faute contre l'homme. Au point que vous trouverez, dans l'érudition postérieure de la Gemara et du Midrash, le fait que je formulerai peut-être plutôt à la manière du Zohar, que les deux questions, je vous l'ai dit souvent sans doute, les deux questions qui se posent à l'homme du point de vue de la compréhension de sa destinée, de son projet, c'est qui et quoi ? Ni et ma. Ma, ça veut dire quoi ? Qu'y a-t-il à faire pour que ça réussisse ? Ça veut dire nous. Et qui, c'est qui a voulu ça ? Donc, qui, ni, ça veut dire qui est Dieu, et ma, ça veut dire que nous demande-t-il ? Eh bien, l'ordre de ces deux questions, c'est d'abord quoi, et ce quoi à faire, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de Ve'ahavta le'rocha kamocha. Et mi qui, c'est l'autre commandement, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Ça veut dire que c'est dans la mesure où je peux reconnaître la dignité d'autrui, avoir répondu au quoi, ce qu'il y a à faire, que je peux savoir qui m'a demandé ça. C'est-à-dire que l'identité de mon créateur, ça veut dire celui qui crée l'autre. Et c'est ce que dit le verset de Ve'ahavta le'rocha kamocha, parce qu'on oublie la fin, Ani Hashem Elokecha. Si j'ai compris Ve'ahavta le'rocha kamocha, alors je comprends aussi la fin, Ani Hashem Elokecha. Et c'est donc, ça nous fait donc découvrir, comment dire, ça nous fait donc découvrir qui est le Dieu qui m'a demandé quoi. Ce quoi. Pour répondre donc à votre question, c'est que l'ordre d'urgence pour la tradition juive, c'est bien comme a dit Hillel après Moïse, Ve'ahavta le'rocha kamocha, donc la préoccupation de la rédemption de la faute de Caïn, et après seulement, il va être humain, si j'ose dire, dans le langage de la Gemara. Et si ça reste encore à faire, de t'occuper de Ve'ahavta le'rocha, est-ce que vous comprenez ce que c'est-à-dire de la rédemption du péché originel. Non, ça dépend de l'histoire et de l'équation individuelle de chacun. Pour certains, peut-être que la dominante est dans leur relation de faute vis-à-vis de Dieu, et peut-être qu'eux comprennent pourquoi eux sont dans ce cas, et que d'autres, la dominante est la relation avec autrui. Mais il faut savoir que la cohérence de la tradition messianique juive, c'est le problème moral qui est premier par rapport au problème théologique. Voilà, j'ai encore trop schématisé, je m'en excuse, on ne peut pas faire autrement, mais voilà, je crois ce qu'il faut vraiment retenir.